La vie des Congolais à l'étranger, nous recevons ce soir le docteur Christian Bisanga. Bonjour.
Bonjour.
Alors, bienvenue à Radio Capi. Merci d'être venu nous voir ici.
Merci.
Alors, est-ce que vous connaissez un tout petit peu Radio Capi, docteur Bisanga? Vous avez été un peu partout, on va en parler tout de suite, hein, aux États-Unis, en Belgique, en Chypre aussi. Est-ce que vous suivez de temps en temps nos programmes, peut-être sur Internet?
Oui, je suis Radio Capi, souvent j'ai des informations du pays par radiocapi.net.
Ah ben voilà. Est-ce que vous saviez qu'il y avait une rubrique consacrée aux Congolais qui vivent à l'étranger?
De temps en temps, on voit même.
Bon, vous êtes médecin, chirurgien aussi, vous avez fait une spécialité hein, qui est assez rare dans ce monde-là, c'est la greffe des cheveux, ou autrement, l'implant
capillaire,
voilà, ouais. la chirurgie capillaire. Alors, on va en parler tout à l'heure, mais avant, parlez-nous de votre parcours. Comment est-ce que vous êtes arrivé à vous spécialiser dans ce domaine-là?
Après avoir terminé mes études secondaires ici au Congo, à Lubumbashi, à Madini, je suis parti en Belgique à Namur, faculté universitaire Notre-Dame-de-la-Paix, où j'ai fait mes candidatures en médecine, et puis après mon doctorat à l'Université catholique de Louvain. J'ai terminé en 1995. Je me suis lancé dans la médecine aiguë, en fait.
Autrement dit, urgentiste. Vous étiez urgentiste.
Oui, donc j'ai fait la médecine, ça s'appelait la médecine d'urgence et des catastrophes.
Essayez un peu d'avoir l'idée, donc, quand il y a des malades qui viennent comme ça dans les hôpitaux, qui sont fortement blessés, ça va d'abord aux urgences. Hein.
Oui, ça va d'abord aux urgences, mais ce n'est pas nécessairement les malades qui viennent, mais en fait, on amène l'hôpital vers le malade. Par exemple, lorsqu'il y a, par exemple,
Vous déplacez pour aller vers les malades.
Un grand crash. On est déployé. On est l'équipe de médecine d'urgence mobile. Parce qu'on sait que dans beaucoup de cas de gros accidents, il faut absolument agir dans la minute, c'est pas dans la seconde.
Mais nous, pensait que dans ce genre de cas, on envoyait rapidement une ambulance qui prenait ses blessés ou ses malades vers les hôpitaux ou à la limite, accompagné d'un infirmier qui pourrait peut-être donner les premiers soins. On savait pas qu'il y a un médecin aussi qui se déplaçait.
Il faut stabiliser les malades. Donc, il y a peut-être des infirmiers aux États-Unis, ce sont des paramédics qui font ça, mais ils ont une formation.
J'imagine que vous travaillez sous stress, hein, parce que s'il faut tout le temps se déplacer comme ça pour aller secourir des gens qui sont en urgence, est-ce que vous aimiez ce que vous faisiez?
Oui, j'aimais très bien ce que je faisais. C'était un boulot, certes, qui était stressant. C'est un boulot où il y avait une demande.
Une forte demande,
ce boulot on ne dormait pas beaucoup, hein, on devrait être prêt.
Alors on peut vous appeler à n'importe quelle heure, à 3 heures du matin, on vous bipe, vous devez vous lever et puis
voilà.
Vous étiez interné
vous êtes à l'hôpital, l'ambulance vous attend et dès qu'on vous appelle, vous devrez être prêt à partir directement à n'importe quel moment, dans n'importe quelle circonstance, parfois sous la neige, sous une forte pluie, par temps de forte chaleur.
Ce n'est pas le cas ici au Congo, malheureusement. Je ne sais pas si les médecins se déplacent comme ça hein, quand il y a urgence.
Mais il faut une infrastructure pour ça. Il faut une infrastructure pour ça.
Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir créer ça ici, par exemple? Une équipe médicale mobile.
L'équipe médicale mobile n'est qu'une étape.
Le même service qui est à l'hôpital.
Il faut répertorier les services d'abord qu'il y a dans les hôpitaux de la place compétents qui peuvent recevoir X ou tel malade.
Voilà, parce que s'il y a des médecins de nuit, par exemple, le médecin de garde, c'est un seul qui n'est peut-être pas spécialisé dans...
Voilà, donc pour pouvoir organiser la médecine d'urgence, il faut une coopération de plusieurs services.
Alors, après cette vie, après avoir pratiqué pendant quelques temps en Belgique, comme urgentiste, vous avez voulu faire autre chose.
Oui, j'aimais beaucoup ce que je faisais, mais j'avais l'impression qu'il y avait toujours...
Il n'y avait pas assez.
Je me suis orienté vers les États-Unis où, lors des congrès auparavant, on voyait bien qu'ils avaient des expériences sur la prise en charge. Là. On a vu des présidents, Reagan, sur qui on a tiré, des trucs comme ça.
Plus il y a des malades ou des blessés, plus vous avez...
Plus il y a une expérience qui s'acquiert. Hein.
L'expérience et aussi du travail, et parce qu'en Belgique, c'est un peu mort. Il faut vous ennuyer quand même, comme
je m'ennuyais pas, mais bon, j'avais envie de plus.
Voilà. Alors, vous êtes orienté vers les États-Unis. Vous êtes allé dans quelle ville exactement?
Je suis arrivé en Géorgie, à Atlanta.
Atlanta, c'est une ville qui bouge. Hein. Il y a beaucoup de noirs, comme vous l'avez dit.
Beaucoup de gangs aussi. Beaucoup de gangs, beaucoup de les pare-balles. J'ai passé mes examens d'équivalence et puis j'ai commencé...
Mais est-ce que vous aviez la maîtrise de l'anglais ou vous avez commencé peut-être par des cours d'anglais pour pouvoir... Parce qu'être médecin, il faut parler aux gens, il faut connaître les termes médicaux en anglais, c'était pas évident.
C'était pas évident parce qu'il fallait, il y avait tout un travail qu'il fallait faire de toute façon avant d'arriver là-bas. Il y a des tests de langue qu'il fallait passer. Mais évidemment, vous arrivez en Géorgie avec un accent du Sud, c'était pas déjà facile. Ça m'a pas arrêté en fait.
J'étais déterminé.
Lorsqu'on est déterminé, on peut parler chinois, on peut parler tout ce qu'on veut. Mm-hmm. Lorsque vous êtes célibataire, ça va, mais lorsque vous voulez commencer une vie de famille, c'est beaucoup de boulot.
C'est un peu embêtant, ça demande beaucoup.
C'est beaucoup de boulot. Donc, je commençais à réfléchir sur mon avenir, sur qu'est-ce que je voulais devenir. Le boulot du dentiste ne me laissait pas beaucoup de place pour autre chose dans la vie. Il y a quand même autre chose dans la vie que le boulot.
Absolument.
Et donc, je me suis orienté vers la chirurgie esthétique.
Voilà. Donc, c'était en quelle année ?
Début 2000.
Voilà, vous avez quand même eu le temps de pratiquer aux États-Unis comme urgentiste. C'était mieux, en tout cas, je suppose.
Oui, l'expérience était différente de l'Europe. Il y avait beaucoup de boulot.
Donc, vous avez lassé aussi, vous vouliez faire autre chose. Et vous êtes donc orienté vers la chirurgie esthétique qui, on va le dire, il y a quelques années, les gens ne savaient pas vraiment ce que c'était la chirurgie esthétique. Et puis, depuis peut-être 10 ans ou plus, on a vu même des émissions télévisées où on vantait les mérites de cette chirurgie, parce qu'avant les gens le faisaient, je pense, en cachette, mais tout d'un coup c'est devenu public, officiel. Tu veux changer quelque chose sur ton corps, tu le fais sans
c'est
problème.
C'est pas si facile que ça, mais bon, l'organisation a pu aider évidemment. Mm-hmm. Aujourd'hui, bon, on a beaucoup de stars qui n'hésitent pas à parler de
part. Oui, c'est vrai.
Oui, par exemple, les exemples du Botox, qui est quand même quelque chose pour la femme qui aide beaucoup, qui gomme les rides.
Et c'est assez simple quand même.
C'est assez simple, c'est juste quelques injections. Et voilà. Donc, voilà. Moi, je me suis orienté essentiellement vers la chirurgie capillaire, la greffe de cheveux.
Alors pourquoi, c'est la question que j'aimerais vous poser, pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire les implants capillaires alors que dans les années 2000, justement, ce qui était très à la mode, c'était pas du tout les cheveux, on n'en parlait pas beaucoup à l'époque, quoique maintenant ça commence à venir. À l'époque, c'était, comme je l'ai dit, autre chose, le nez, le botox aussi pour peut-être affiner le visage, tout le reste du corps aussi.
La chirurgie des cheveux, c'était quelque chose de très rare, comme vous le dites. Mais c'était quelque chose de passionnant lorsqu'on se plonge dedans pour comprendre l'univers du cheveu. Moi, je suis tombé amoureux, je dirais, du cheveu. Et donc, j'ai eu la chance, sur mon parcours, d'être admis dans l'institut qui est la référence mondiale en matière de greffe capillaire. Et donc, j'ai eu à faire ma formation là-bas jusqu'à être chef assistant là-bas.
Et ça vous a pris combien de temps, la formation ?
4 ans.
Donc, il fallait au départ être médecin, chirurgien, pour pouvoir prétendre devenir spécialiste en greffe capillaire.
Il fallait être médecin d'abord. Moi, je n'avais pas beaucoup de formation. Je n'étais pas chirurgien lorsque j'ai quitté la Belgique. J'avais un diplôme de médecine aiguë, mais j'avais fait beaucoup de traumatologie. J'ai eu à faire quelques trainings pour compléter, mais je me suis vraiment orienté très vite dans mon domaine, qui était celui de la greffe capillaire.
Et c'est pas peut-être parce que, en général, dans la chirurgie esthétique, tout était déjà pris, les gens commençaient à découvrir un tout petit peu ce qu'on pouvait modifier sur le corps, mais pour les cheveux, ceux qui avaient, par exemple, la calvitie, les femmes qui perdaient les cheveux, ne savaient pas quoi faire, à quoi recourir, on ne parlait pas encore beaucoup de la greffe capillaire à l'époque, on proposait peut-être des petits comprimés, on proposait pommades, ça ne marchait pas, c'était pas efficace. Alors,
j'aime jamais faire les choses faciles, donc je voulais vraiment avoir un challenge. Et donc la greffe capillaire m'offrait ce côté-là où je pouvais vraiment, comme vous dites, dans d'autres domaines, il y a déjà beaucoup qui avait été fait, alors que dans la greffe de cheveux, tout était presque à refaire.
À refaire, absolument.
Ou à faire, ou à parfaire. Mm-hmm. Je me suis mise à travailler d'arrache-pied, on a développé des techniques qu'on a mises au point aujourd'hui, qui sont des références aujourd'hui dans le monde.
On apprend, en tout cas, que les premières tentatives d'autogreffe datent des années 1930.
39,
même si on n'en parlait pas beaucoup, mais c'est donc la dernière décennie qui a permis de réaliser des principaux progrès. Alors comment ça se passe à une transplantation, une greffe capillaire? Il faut une anesthésie sûrement, locale, générale, ça dure combien de temps l'opération?
L'opération en soi est une opération longue, il y a toute une dissection qui se fait au microscope, donc en moyenne une opération dure entre 7 et 10 heures.
C'est pas en une fois que vous arrivez commencer à remettre, par exemple, des cheveux à un chauve, c'est pas en une journée, il faut peut-être plusieurs séances.
Tout dépend de la superficie. En fait, la greffe de cheveux est une autogreffe. On prend vos propres cheveux.
Les propres cheveux du malade, du patient.
Parce que lorsqu'on regarde les gens qui sont chauves, si je parle des hommes,
ils ont une couronne derrière.
C'est un peu la couronne d'Hippocrate. Et donc, cette couronne, les cheveux sont programmés génétiquement à ne pas tomber. Mm-hmm. En les isolant avec la racine des cheveux et en les implantant, ces cheveux commencent
à pousser. Voilà.
Maintenant, il faut les placer en fonction du résultat escompté. Quelqu'un qui est complètement chauve, évidemment, il va nécessiter quelques séances. En une séance, c'est pas possible de tout couvrir, mais bon, en moyenne, 2 à 3 séances, plus ou moins, je dirais un écart d'un an entre chaque séance, il y a moyen de se refaire toute sa tête.
Alors, ça veut dire que vous ne traitez que des gens qui sont déjà chauves, qui ont déjà la calvitie, des femmes qui ont déjà perdu leurs cheveux, ou est-ce qu'on peut prévenir tout ça?
On prévient tout ça, évidemment.
Et comment prévenir tout ça? Là, il y a des comprimés à prendre?
La prévention, c'est 2 volets. Si c'est chez l'homme, il y a des médicaments, sous forme de comprimés, soit sous forme de solutions appliquées, qui ralentissent l'évolution de la perte des cheveux, mais qui ne vont pas nécessairement soigner, parce qu'au départ, on perd les cheveux parce qu'on a hérité des gènes dans la famille.
Chez la femme, parce que les femmes ont beaucoup de problèmes, justement, surtout nous autres femmes africaines, avec le tissage, tout ce qu'on met dans nos cheveux, les défrisages aussi, vous dites que c'est pas bon. On arrive souvent à avoir des femmes qui perdent les cheveux devant. Qu'est-ce qu'on peut faire?
Donc, chez la femme, il faut différencier 2 choses. Il y a les pertes de cheveux d'origine métabolique, d'origine, je dirais, l'anémie, les problèmes de thyroïde. Et puis, il y a surtout la panoplie chez la femme noire. Mais bon, ce n'est pas seulement la femme noire, parce que la femme blanche aussi, qui met des extensions, a le même problème de perte de cheveux. On appelle ça l'alopécie de traction.
Oui, il y a des femmes européennes qui ont des cheveux assez fins. Ce n'est pas beaucoup dans la tête et elles veulent ajouter, justement.
Oui, donc c'est l'équivalent des greffes que la femme noire fait. Mm-hmm. Il faut savoir, la femme noire utilise beaucoup des produits pour défriser ses cheveux. La plupart des défrisants contiennent de la soude caustique.
Soude caustique, oui.
Et la soude caustique, elle casse les cheveux, elle brûle la peau et détruit les follicules. Il y a tous les tissages et tous les tresses qui tirent énormément sur la peau qui, à la fin, arrive à casser les cheveux. Si vous prenez une jeune fille qui a 5 ans, 6 ans, qui commence à se faire tresser.
C'est déjà. Ça commence dès le bas âge.
Mais aujourd'hui, l'Académie américaine de dermatologie reconnaît que 50 à 60% des femmes noires à l'âge de 50 ans ont un problème de perte de cheveux. Mmh. Donc ce n'est plus un problème isolé, c'est un problème qui devient pratiquement endémique, qui nécessite une éducation de la femme noire